Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'oratoire. Qui que vous soyez, sachez qu'en entrant ici, vous ne serez l'hôte d'aucune famille étroite, car vous êtes l'hôte même de Dieu. Oui, c'est de l'Éternel notre Dieu que nous recevons ce matin encore la grâce et la paix. Alors, frères et sœurs, levons-nous pour rendre grâce et chanter le premier spontané indiqué dans le livret liturgique jaune qui figure au début de notre psautier français. Éternel notre Dieu, en cette année ecclésiale qui débute, nous te rendons grâce pour tous les serviteurs que tu suscites. Notre sacristain, les pasteurs, les conseillers presbytéraux, les diacres de cette église, nos organistes, notre chef de chœur, nos secrétaires, les catéchètes, les chefs scouts, les animateurs de groupe, celles et ceux qui œuvrent en faveur d'un accueil chaleureux à l'entrée de ce temple, à la garderie, lors des vers fraternels, à l'occasion des repas, lors de la vente. Celles et ceux qui agissent anonymement et qui accomplissent ta volonté discrètement. Il y a ces ministères particuliers, il y a notre vocation générale, celle d'ouvrir des brèches. Nous sommes toutes et tous au bénéfice de cet appel à ouvrir des voies nouvelles pour une vie dégagée des discours qui enferment, des discours qui écrasent, qui réduisent l'universel au particulier. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce de faire de nous tous ces témoins de cette grâce qui rend à chacun la liberté d'être lui-même. Et nous te disons notre joie, cette joie profonde de nous retrouver, de pouvoir nous accueillir les uns les autres et de pouvoir accueillir celles et ceux qui aujourd'hui nous rejoignent. Amen. Le psaume 24, frères et sœurs, sera l'occasion de nous donner les mots pour chanter que ce lieu où nous nous tenons est d'abord la propriété de l'Éternel. Les strophes 1, 2 et 3 de « La terre au Seigneur appartient ».
Thank you.
prenons place. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Christ selon l'évangéliste Jean, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Éternel notre Dieu, force est de constater que nous avons souvent préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons travaillé plus pour nous que pour ton royaume. Nous nous sommes aimés nous-mêmes, mais nous avons insuffisamment aimé notre prochain et toi-même. Pardonne-nous de n'avoir pas changé, de nous être si souvent repentis en vain. Oh, nous ne voulons pas nous accabler, mais toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, aide-nous à changer notre manière d'être. Et avec ton pardon, accorde-nous la force et la joie de mieux t'aimer et te servir. Amen. Dans la perspective du rassemblement protestant qui aura lieu en fin de semaine, protestant en fait, dont le thème est Paris d'espérance, le professeur Raphaël Picon a écrit ce bout d'éditorial dans Évangile et Liberté. L'espérance à laquelle l'Évangile nous appelle est fondée sur le Christ, c'est-à-dire un oui sans réserve que Dieu adresse à toute l'humanité. Dieu a tant aimé le monde, nous dit l'Évangile. C'est cet amour sans condition qui nous permet à notre tour d'aimer le monde et de le croire en Dieu, capable de merveilles. Il y a des drames terribles, des existences brisées, en lambeaux, des injustices et des violences effroyables. Mais face à cela, il y aura toujours un prophète, un sage, un poète. Il y aura toujours le Christ pour nous dire que la vie ne se réduit pas à ses échecs. Il y aura toujours un cependant pour nous accrocher à la vie, pour nous donner envie d'y croire malgré tout, pour nous donner envie de scruter une nouveauté encore possible, envie de faire encore le pari de l'espérance. Thank you. Dans un instant, c'est le professeur Pierre-Olivier Lechaud que nous avons le plaisir d'accueillir ce matin qui prendra place dans cette chaire et sa qualité d'historien m'oblige. Je suis donc allé fouiller dans les archives de l'oratoire pour vous faire profiter de ce qu'est vraiment la confession de foi de l'oratoire. Il y a plus d'un siècle maintenant, en un préambule et quelques versets bibliques, voici ce que notre communauté exprimé, c'était en 1905. Les membres de la paroisse de l'oratoire se regardent comme des frères, alors même qu'il existe entre eux des divergences théologiques qu'ils ne songent pas à dissimuler. Ils sont étrangers à une conciliation diplomatique obtenue par d'habiles formules susceptibles d'interprétations diverses et maintenue par un silence prudent sur les points qu'ils n'entendent pas d'eux-mêmes. Mais ils pratiquent l'union des cœurs, le respect mutuel et l'entière loyauté dans la parfaite liberté chrétienne. Ils affirment avec joie leur foi commune en Jésus-Christ et en son Évangile, dont ils trouvent la substance dans ses paroles telles que celle-ci de notre divin Maître. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. C'est ici la vie éternelle, qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à prendre place. Frères et sœurs, je vous propose aujourd'hui trois lectures dont ma qualité d'historien m'oblige à dire, mais ce sera, je vous rassure, la seule remarque historique de la journée, trois lectures qui ont passablement influencé le réformateur Martin Luther, non pas pour la rédaction de ses fameuses 95 thèses, mais pour la rédaction d'une dispute théologique qui s'est tenue en 1518 à Heidelberg et qui a marqué l'avènement, ou plutôt le retour de cette théologie de la croix qui marquera l'histoire de la Réforme. Le premier texte que je vous propose à la lecture est tiré du livre de l'Exode, au chapitre 33, les versets 18 à 23. Et Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit : tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit aussi : voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras, mais tu me verras de dos, car ma face ne peut être vue. Nous lisons à présent dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Mais Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit : je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus répondit : il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu : montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez, du moins, à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous lisons enfin dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 1 à 11, qui seront à la base de la prédication. Il faut s'enorgueillir, c'est bien inutile. Pourtant, j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, 14 ans auparavant, était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, cet homme-là fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, cet homme fut enlevé jusqu'au paradis et entendit des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à l'homme de redire. Pour cet homme-là, je m'enorgueillirai, mais pour moi, je ne ferai rien valoir, si ce n'est ma faiblesse. Ah, en effet, si je voulais me faire valoir, je ne serais pas insensé, car je ne dirais que la vérité, mais je m'abstiens, pour qu'on n'ait pas sur mon compte une opinion supérieure à ce qu'on voit de moi et à ce qu'on m'entend dire. Et parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour m'éviter tout orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan chargé de me frapper pour m'éviter tout orgueil. Et à ce sujet, trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais Dieu m'a déclaré : ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Aussi ferai-je bien plutôt valoir mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Me voilà devenu fou. Vous m'y avez contraint. Je vous invite à présent à chanter le cantique numéro 297, les strophes 1 à 4. Prions encore le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour cette parole qui vient de toi. Ô Dieu, Père éternel et tout-puissant, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre, tu nous as offert de t'appeler Père en Jésus-Christ. Illumine à présent notre intelligence pour que nous puissions comprendre ta volonté manifestée dans l'Écriture. Inspire notre cœur afin que nous te sentions proche. Envoie maintenant sur nous ton Esprit Saint afin que nous puissions rencontrer Jésus-Christ dans cette parole qui vient de toi. Insuffle-nous ton Esprit de vérité afin que nous la connaissions plus profondément et qu'en la connaissant, nous l'aimions plus intensément pour parvenir ainsi à la béatitude du royaume. Chers frères et sœurs, c'est un Paul comme nous ne le voyons ou ne l'imaginons que rarement qu'il nous est donné de lire ce matin. Un Paul bien embarrassé à la vérité. La communauté de Corinthe, cette communauté qu'il a contribué à fonder, à laquelle il voue un attachement tout particulier et à laquelle, vous le savez, il a déjà écrit plusieurs fois, eh bien cette communauté hésite à participer à la collecte destinée à l'église de Jérusalem. C'est donc d'argent qu'il est question à l'arrière-plan de cet extrait, de problèmes bassement matériels en somme, mais des problèmes qui révèlent aussi des difficultés bien plus profondes et donc bien plus graves, car il en va aussi de trahison et de doute. Trahison de ceux de Corinthe qui ont reçu parmi eux d'autres apôtres, des apôtres qui n'ont pas hésité à demander à être payés des Corinthiens pour entendre les révélations extraordinaires qu'ils auraient, dit-on, reçues de Dieu. Doute, par conséquent, à l'égard du message de Paul, absent et donc muet. La communauté de Corinthe à laquelle Paul écrit est donc pleine de tentations nouvelles. Elle écoute les affabulations mystiques, les rêveries de nouveaux prophètes illuminés et risque ce faisant de se désolidariser des frères et des sœurs de Jérusalem. Bref, le schisme est à la porte. Or, Paul hésite. Que faire ? Comment parler alors qu'il est absent ? Doit-il prendre en compte les techniques de ses adversaires, se fonder sur leurs démarches, en montrant que lui aussi a reçu des révélations, que lui aussi il a entendu Dieu lui parler et que Dieu lui a dévoilé ses mystères ? Certes, il pourrait le faire, Il pourrait se vanter et faire sien les discours de ses adversaires en racontant ses propres extases mystiques. Et il le fait bel et bien, mais en passant, non pas pour essayer de montrer que ses révélations à lui sont encore plus extraordinaires que celles de ses concurrents, mais de manière à montrer à ceux de Corinthe qu'en soi, il n'y a là rien de bien remarquable et que c'est au fond une quasi-banalité. Je connais un homme qui a été transporté au ciel, un homme comme il peut y en avoir d'autres, qui pourront toujours à leur tour raconter tout un tas d'histoires merveilleuses et fantastiques. Ils pourront, comme lui, dater bien précisément le moment de leur vision, 14 ans, rapporter les détails de ce qu'ils ont vu, préciser jusqu'au degré céleste de leur envol et se demander si l'expérience était celle de leur corps ou pas. Mais tout cela, nous dit Paul, n'aura au fond rien de bien original. Car pour Paul, ce qui est important est ailleurs, dans son expérience à lui, une expérience humaine, toute humaine et sans doute trop humaine, diront ses adversaires. Mais qu'importe, cette expérience, c'est la sienne et elle a valeur de révélation pour l'entier de la communauté de Corinthe, une révélation bien plus fondamentale que celle de ces faux prophètes qui abrutissent ses lecteurs d'histoires à dormir debout. Oui, Paul a connu, lui aussi, des expériences extatiques. Il parle en langue, il a vu Dieu et il en a même reçu ses révélations. Mais parce que ces révélations étaient extraordinaires, écrit-il, pour m'éviter tout orgueil, Dieu m'a mis une écharde dans la chair, un ange de Satan chargé de me frapper pour m'éviter tout orgueil. C'est de l'expérience de la souffrance, du doute qui continue de se manifester à lui au moment même où il écrit que Paul veut parler pour convaincre ses lecteurs. Alors on a spéculé sur cette écharde, sur la réalité historique à laquelle elle renvoyait, et il y a sans doute autant d'explications que de commentateurs. Certains y ont vu les doutes que Paul ressentait dans sa foi. D'autres y ont décelé un sentiment d'impuissance face à son peuple, celui d'Israël, et à son refus de se convertir à l'Évangile. D'autres, enfin, y ont vu le signe de souffrance physique, voire même des tentations de la chair. Mais tout cela, au fond, n'a pas plus d'importance que le contenu précis des révélations reçues par Paul lorsqu'il était au septième ciel. Ce qui compte, c'est que Paul, l'apôtre des nations, appelé par la volonté de Dieu, comme il l'écrit souvent, Paul, le champion de la foi, doute, tremble et vacille. Or Dieu, dans cette faiblesse, lui parle. Et cette parole n'est pas celle qu'entend Paul dans le ciel, non. C'est une parole bien terrestre, celle-là, trop terrestre, diraient même d'aucuns. Une parole qui retentit dans son existence, au cœur de son doute et de sa souffrance. Et une parole qui, de surcroît, n'a rien pour l'encourager et lui promettre un lendemain meilleur. Ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste pleinement dans la faiblesse. Cette réponse de Dieu à Paul se trouve formulée au parfait. Au rang grec, le parfait, si je me souviens bien de mes cours de grammaire, c'est le temps qui permet de souligner une réalité qui est advenue autrefois, mais qui conserve toute sa validité dans le présent. Dieu m'a déclaré une fois pour toutes, de manière permanente, qu'elle était et quelle est sa réponse à ma faiblesse, à mes doutes. Ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste pleinement dans la faiblesse. C'est ainsi, je n'ai rien à ajouter. Dieu a donc choisi la faiblesse pour se révéler dans toute sa force et sa puissance. Ce faisant, vous l'aurez compris, Paul nous renvoie naturellement à ce qui fait le fondement de sa pensée, de son action et de sa foi, la croix de Jésus-Christ. Cette croix sur laquelle, il l'a déjà écrit maintes fois aux Corinthiens, toutes les évidences humaines se trouvent révélées comme des folies. La croix sur laquelle toutes les prétentions de l'homme à saisir qui est Dieu viennent se fracasser. Notre texte rejoint donc les autres lectures de ce jour. Il renvoie bien sûr à l'expérience de Moïse qui veut voir Dieu en pleine majesté, mais à qui Dieu tourne finalement le dos. Il renvoie aussi à l'histoire de Philippe dans l'extrait de l'évangile de Jean. « Montre-nous le Père !» demande Philippe, et Christ de lui répondre « Qui me voit, voit le Père. » Nous ne pouvons saisir Dieu. Nous ne pouvons le maîtriser et le plier à nos besoins. La seule chose que nous puissions faire, c'est de regarder Jésus-Christ. Or, ce que Paul voit en Jésus, ce n'est pas d'abord le prophète ou l'enseignant d'une morale sans faille, ni le petit enfant dont la naissance fut annoncée par les anges, ni même, il faut le dire, le ressuscité. Non, quand Paul pense au Christ, c'est d'abord à l'homme crucifié, cet homme en qui Dieu, paradoxalement, se révèle au monde. Car c'est bien le Christ qui se trouve derrière le texte de Paul que nous venons d'entendre. Comme le Christ à Gethsémani, demandant trois fois au Père d'éloigner cette coupe de douleur de sa bouche, Paul, à son tour, demande en effet trois fois à Dieu de le libérer de son écharde. Or, écharde, en grec, se dit skolops, ce qui peut aussi signifier la croix. Naturellement, Paul n'entend pas se faire Christ contre ses adversaires pour se parer de la gloire de son Seigneur et les renvoyer ainsi dans les cordes. Car ce n'est pas nous que nous prêchons, mais Christ et Christ crucifié, comme il l'a écrit un peu plus tôt aux Corinthiens. Non, ce qu'il cherche à faire, c'est de montrer à ses lecteurs que la vie du croyant, la sienne comme la nôtre, se trouve tout entière marquée du sceau de la croix, c'est-à-dire conditionnée par l'échec, par le doute, par la faiblesse, et que Dieu se révèle dans cette faiblesse. Alors il ne s'agit pas ici de donner dans le dolorisme, là où d'autres donneraient dans l'angélisme mystique, mais de rester attentif à une réalité tout autre. La mort de Dieu sur la croix est un renversement de toutes les réalités terrestres. Nous attendons Dieu en majesté, nous le trouvons faible et sans force. Nous nous glorifions de nos révélations, cela n'a pas d'importance. Nous nous attendions à être libérés du doute par la foi, le doute continue bel et bien de nous assaillir. Pire, Paul nous dit que c'est dans la faiblesse, dans ce doute, que Dieu se manifeste pleinement à nous. Le message de Paul est donc clair. Inutile de vous acharner à vous valoriser. Inutile de vous construire une image bien polissée de chrétien à la réussite facile. Inutile de vous dire que vous avez reçu des révélations merveilleuses et surnaturelles pour vous justifier de ne pas payer la collecte. Vous serez toujours contraint de voir vos belles constructions se fracasser contre la croix de Vendredi Saint. C'est ce que Paul veut dire, je crois, à ses lecteurs de Corinthe. Paul, l'apôtre des nations, l'ancien persécuteur des chrétiens converti par Dieu, doute, tremble et vacille. Mais c'est justement dans ce doute, dans cette angoisse, que Dieu le rejoint et se montre tel qu'il est en Jésus-Christ. Amour de l'homme jusque dans la mort, l'échec et précisément la faiblesse. C'est pourquoi Paul peut affirmer se réjouir de ses faiblesses, des insultes et des persécutions qu'il a à subir de la part de ceux qui autrefois l'écoutaient. Car la puissance, la vraie, celle de Dieu, n'appartient pas aux possibilités des hommes. La maîtrise ne nous garantira jamais rien. La seule chose dont le croyant peut s'assurer, c'est de la grâce de Dieu, cette grâce qui n'est que folie aux yeux du monde. Voilà pourquoi Paul, celui qui se déclarait en ouverture de sa lettre « apôtre du Messie Jésus par la volonté de Dieu », conclut à l'intention des Corinthiens « Me voilà devenu fou ». Certes, pareil texte n'a rien de bien surprenant pour nous autres protestants historiques, si vous me permettez cette expression. Il est facile de comprendre que les affabulations mystiques ne signifient rien en elles-mêmes et que probablement elles doivent plus à une forme de dérive psychologique qu'à une véritable inspiration, et ce, même si nos églises protestantes de France connaissent maintenant à nouveau, elles aussi, ce type de comportement. Mais ce n'est pas ici qu'il me faut insister sur ce point. Non, la question que ce texte nous pose se trouve ailleurs, car elle questionne en réalité notre attitude de chrétiens face au monde. Sommes-nous réellement à même de comprendre le message que nous venons d'entendre et de le porter devant le monde aujourd'hui? Car si nous suivons la logique de Paul ce matin, nous devons alors reconnaître que ce discours renverse précisément tous les discours qui chercheraient à donner une apparence de respectabilité à notre message pour les femmes et les hommes de notre temps. Nous devons comprendre que toutes nos tentatives de rendre notre discours acceptable à nos contemporains, de le vendre selon les critères de la communication et de l'efficacité, seront toujours vaines, car elles apparaîtront toujours comme une folie aux yeux de ceux qui voudront le juger à l'aune du succès, de la réussite et du bonheur. Et ce, en raison même de la croix, cette folie aux yeux du monde. Certes, la tentation est grande de vouloir chercher à convaincre nos contemporains que nous sommes une Église vivante, sympathique, active, jeune et belle. Et nous en aurons encore un bel exemple dans une semaine, lorsque plusieurs milliers de protestants afflueront ici à Paris pour célébrer Protestants en fête. Nous pourrons alors nous rassurer, nous dire que nous sommes encore bien nombreux, malgré les statistiques, que nous sommes encore jeunes, malgré les chiffres des sociologues, et nous aurons probablement raison, du moins en partie. Mais ne nous y trompons pas. Nous pourrons toujours jouer à l'Église de prospérité, respecter et reprendre les recettes de nos frères et sœurs évangéliques, changer nos orgues pour des batteries et nos sermons pour des témoignages de conversion. Nous ne manquerons pas de sentir à nouveau cette épine, cette écharde fichée dans notre chair, et de nous rappeler que notre Église, comme toutes les Églises et comme toutes les réalités humaines, est mortelle, pauvre et faible. Mais Paul, justement, vient nous dire que c'est précisément dans cette faiblesse que se manifeste la force de Dieu, et que Dieu ne nous y abandonne pas, car c'est alors que nous sommes faibles, que nous sommes forts. C'est alors que nous sommes pleins de doutes et que l'angoisse nous saisit, que nous sommes à même d'entendre la parole qui nous est adressée. N'aie pas peur, tu comptes pour moi. Alors cesse de t'inquiéter, cesse de vouloir maîtriser ton destin. Accepte-le, vis-le pleinement, simplement. Ma grâce te suffit. Mais alors me direz-vous, que faire ? Faut-il ne pas participer aux festivités du week-end prochain et rester tranquillement chez soi? Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas ici de plaider pour ou contre une manifestation bien particulière, mais de se rappeler le message de l'Évangile. Et il ne s'agit surtout pas de plaider pour un désengagement, alors que d'autres, suivez mon regard, occupent la scène médiatique et nous parlent de leur communauté jeune, belle, saine et convertie. Non. Il s'agit simplement de chercher à s'engager vraiment, de chercher à témoigner en parole et en acte pour annoncer l'essentiel, une parole au fond toute simple, de grâce, d'amour et de joie. Car la joie ne nous est pas interdite, bien au contraire. Mais la joie dont parle l'Évangile, c'est autre chose que la fête pure et simple. La joie ne naît pas de la satisfaction de réussir quelque chose, mais du fait de se savoir aimé envers et contre tout. La joie, ce n'est donc pas l'effacement de nos tracas, mais un regard différent porté sur ces derniers, et qui nous fait les percevoir comme quelque chose en quoi peut se révéler une parole d'autant plus forte que nous sommes faibles. Ma grâce te suffit. Jusque dans le doute, jusqu'à ce moment précis où nous doutons de Dieu même. Oui, chers frères et sœurs, l'Évangile ne nous promet pas que l'épine qui torture notre pied sera un jour enlevée. Il ne nous promet pas que notre Église protestante, bientôt vieille de 5 siècles, ne mourra pas, et que si nous y mettons d'une autre, tout ira mieux. Non, l'Évangile nous dit simplement que l'écharde dans notre chair peut aussi devenir une promesse, que c'est alors que nous doutons de notre avenir en tant que communauté que nous pouvons rencontrer Dieu vraiment. Car c'est précisément là, dans notre doute et notre faiblesse, que nous sommes à même d'entendre sa parole pour nous. Pas dans le succès, pas forcément quand tout va bien, comme nous, quand nous sommes en phase, mais justement quand nous sommes dans le doute et que nous l'assumons. Car cette épine nous rappelle notre humanité profonde, ses manques, ses fêlures, et le fait que Dieu les comprend, car il les a vécues jusqu'au bout, sur la croix. Certes, ce discours risque bien d'apparaître comme une folie à bien de nos contemporains, mais il n'y en a, je crois, pas d'autre qui vaille. Car c'est précisément au fond cela que Paul nous demande de devenir, des fous de Dieu, des fous pour Dieu, des fous, ou plutôt, si vous préférez, des excentriques. Oui, nous sommes des excentriques, parce que justement, Dieu ne cesse de nous décentrer, de nous excentrer par rapport à nous-mêmes et à nos préoccupations comme à nos satisfactions, pour nous tourner vers autre chose, son amour, qui, lui, n'a pas de fin. Alors, soyons fous et surtout, réjouissons-nous. Amen.
Et nous vous proposons de chanter le cantique 308, donc dans le petit recueil Louanges et prières. Confie à Dieu ta route, les trois premières strophes de ce cantique bien connu. Confie à Dieu ta route. Vous pouvez prendre place. Alors un grand merci à Pierre-Olivier Léchaud, donc, qui est professeur à la faculté de théologie protestante Boulevard Arago. Merci pour cette prédication donc, qui fait réfléchir et qui donne de la force. Je voudrais saluer aussi le pasteur Kim, donc peut-être que vous pouvez vous mettre debout, que tout le monde vous voit. Donc, il est professeur de théologie à Madagascar et donc il est très engagé aussi auprès de l'orphelinat de Topaza que nous soutenons. Donc, s'il y a parmi vous des personnes qui s'intéressent à cette action à Topaza, à Madagascar, eh bien, vous pouvez, à la sortie, venir le rencontrer. Il a des photos de la construction donc, du bâtiment qui est en cours, et puis il donnera les nouvelles les plus fraîches. Alors, il y a beaucoup d'annonces, donc je vais essayer de les faire bien vite pour que ça ne dure pas plus longtemps que la prédication, ce qui est toujours difficile, un exercice difficile. Donc, il y a les expositions sur Paul Ricoeur faites par la faculté de théologie, par le fonds Ricoeur, et puis sur Albert Schweitzer, qui est de l'autre côté, qui annonce un peu le concert lecture en hommage de Schweitzer que nous aurons le jeudi 3 octobre. Mais ces expositions vont rester donc la semaine prochaine en particulier, puisque pour protestants en fait, eh bien, il y aura des portes ouvertes de l'oratoire vendredi, samedi, dimanche prochain, et il y aura plein d'autres activités. Il y a des petits prospectus qui donnent l'adresse de protestants en fait, qui permet de s'inscrire dans la fête qui aura lieu le samedi soir, le culte au Palais Omnisport de Bercy le dimanche matin, et puis d'aller voir toutes les activités qui ont lieu partout dans Paris pour ces 3 jours, donc de la fin de la semaine prochaine. Alors en particulier, tout près de l'oratoire Place du Palais Royal, il y a le village des solidarités avec des œuvres donc d'entraide protestante. Mais il y a ici même dans l'oratoire un concert vendredi en entrée libre à 20h30 avec des suites pour violoncelle de Bach par Philippe Müller, et puis le Gloria et le Magnificat de Vivaldi par notre chœur de l'oratoire. À propos de ce chœur, donc, nous sommes en train de recruter donc un nouveau chef de chœur, et donc si vous voulez vous engager dans le chœur de l'oratoire, eh bien, vous pourrez le rejoindre tout bientôt, donc avec un chœur renouvelé, comme nous prêchons chaque dimanche, mais avec une autre orthographe. Il y aura aussi donc une projection d'un film documentaire sur Théodore Monod, qui sera projeté en face salle Monod justement, à plusieurs reprises, le vendredi, le samedi. Il y aura un récital d'orgue par notre organiste Jean-Dominique Pasquet autour du choral luthérien et des chants réformés, donc samedi prochain, de 11h à midi ici, suivi de la lecture des béatitudes selon la tradition donc des veilleurs. Et puis il y aura l'après-midi du samedi, il y aura des conférences débats, une première à 1h de l'après-midi. Ça vous laisse le temps de manger, donc entre les béatitudes et la conférence. Il y aura risquer le partage pour rester vivant avec Olivia Bell et René Furtos, qui est un psychiatre. Donc ici, à 1h, suivi d'une autre table ronde à 15h15, quelles espérances dans un monde marqué par la corruption et la pauvreté, avec Rocard en particulier, et puis d'autres personnes. Donc il y a plein de rencontres partout dans Paris, vous pourrez chercher le programme, et puis il y aura donc le culte ici même, dimanche prochain. Alors ce culte, il y aura une chorale africaine en fait qui va venir pour annoncer la soirée, le concert lecture qui aura lieu, soirée d'hommage pour Albert Schweitzer, qui aura lieu donc jeudi 3 octobre. Alors j'ajouterai quelques annonces concernant les activités plus régulières, bien que vous pouvez prendre la feuille rose qui est sur la table à la sortie, le bulletin de notre paroisse qui donne toutes les activités. Et puis sur le site internet, il y a les annonces les plus à jour, les plus au point. Donc en particulier, il y a quelque chose qui n'a pas pu être imprimé dans la feuille rose, une bonne nouvelle. Donc c'est le groupe d'initiation au grec biblique. Il va reprendre le lundi 30 septembre avec un nouveau professeur, Aurore Mériot. Donc grand merci à elle. Pour permettre à ceux qui le désirent de s'initier donc au grec biblique, ce qui permet d'avoir accès donc aux évangiles dans la langue originale, ce qui est vraiment passionnant. Alors l'éveil biblique, l'éducation biblique, le groupe de lycéens ont déjà repris, c'est la première activité à reprendre il y a 15 jours. Il y a la garderie même pour les enfants qui a repris même encore avant, donc début septembre. Les autres groupes vont reprendre progressivement, en fait. Donc, il y a le groupe d'étudiants et jeunes actifs qui reprend ce mardi à 19h30, rue de l'Oratoire, en face, avec, si possible, quelques nourritures et boissons à partager pour pouvoir partager aussi, eh bien, nos idées dans un débat. La formation des organistes liturgiques qui est faite par Jean-Dominique Pasquet au service donc des différentes paroisses de la région va reprendre le 12 octobre, donc merci pour ce service précieux. Les groupes d'études bibliques, donc il y en a un qui a lieu le mardi après-midi, une fois par mois, avec James Woody, va reprendre dans une dizaine de jours, le mardi 1er octobre, autour du livre d'Ézéchiel. Et puis le groupe biblique, un mercredi soir par mois, animé par le père Prigent, donc de la paroisse Saint-Eustache, et moi-même, reprendra lui le 9 octobre, autour du thème « Qui nous fera voir le bonheur, la joie, le bonheur, le plaisir dans la Bible, selon la Bible ?» Ensuite, il y a les deux groupes théologiques. Le nouveau cycle d'initiation à la théologie que nous faisons donc 2 fois par an va commencer donc début octobre, le 8 octobre. Vous pouvez envoyer un mail à un des pasteurs pour vous permettre de recevoir donc les informations, les documents préparatoires pour ces rencontres. Et puis il y a le groupe d'approfondissement théologique qui va reprendre le 7 octobre au soir. Nous suivrons cette année des grands théologiens du XXe siècle. Et nous commencerons donc le 7 octobre au soir avec Karl Barth. Je crois que j'ai à peu près dit l'essentiel des annonces, en espérant ne pas avoir oublié trop de choses, si ce n'est qu'il y a les repas de paroisse qui vont reprendre donc début octobre. Il y a encore d'autres choses que j'ai sans doute oubliées, mais il y a tout sur la feuille rose ou sur le site internet. Sinon, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, il y a donc la Sainte-Seine. Tous sont accueillis à la table, quelle que soit leur appartenance ou leur non-appartenance à une église. C'est un geste qui permet vraiment de dire « Oui, je suis au bénéfice de cette grâce de Dieu, de tout ce que Dieu me donne en Christ et je désire le prendre pour l'assimiler, pour en vivre. » Mais il y a aussi une dimension communautaire dans ce geste. Alors ceux qui ne sont pas très sensibles à ce sacrement, mais qui néanmoins voudraient entrer dans cette communion fraternelle, peuvent rejoindre le cercle et puis passer le plat et la coupe sans en prendre. Mais si vous le désirez, eh bien, on a tout à fait le droit aussi de rester tranquillement à sa place à méditer. De toute façon, la scène est encore de la prédication, encore de l'interprétation de l'Écriture, et donc nous pouvons être sensibles à une façon ou une autre eh bien, de s'ouvrir au meilleur que Dieu nous donne par grâce. Les diacres de notre Église vont maintenant recueillir notre offrande. Nous avons tout reçu gratuitement de la part de Dieu. Que ce temps d'offrande joyeuse et libre soit une louange à Dieu et un témoignage visible de notre reconnaissance. Tu veux bien nous faire un petit bout ? Tu pourras attaquer avec ça ?
Jusque-là.
Oui, jusque-là, puis après.
Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Ô notre Dieu, Père éternel et saint, il est vraiment digne et juste, c'est notre joie et notre salut, de te rendre grâce par Jésus-Christ notre Seigneur, pour la gloire de ta création et pour ton amour. C'est pourquoi avec tous les chrétiens, partout dans le monde, quelle que soit leur Église, avec la grande nuée des témoins, en une commune joie, nous te rendons gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa lumière. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Dans la nuit où il fut livré, nous nous souvenons que Jésus prit un repas avec ses disciples, qu'il prit du pain, qu'il le rompit et qu'il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». De même, il prit la coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance pour le pardon des péchés ». Et il ajoute, « En vérité, je vous le dis, je ne le boirai plus jusqu'à ce que je le boive nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » Unissons-nous dans la prière. Dieu de tendresse et de fidélité, nous voulons par notre geste nous souvenir de ce qui a été dit et de ce qu'a fait le Christ pour toute l'humanité. On voit sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et ce vin, nous soyons en communion avec le Christ, avec sa façon d'être, avec ses paroles et avec sa résurrection. Oui, on voit sur nous ton Esprit pour attendrir notre cœur et nous permettre enfin de reconnaître que notre prochain est digne d'être respecté et servi. Nous pensons devant toi et grâce à toi, à ceux que ton amour nous appelle à garder nous-mêmes. Et dans une communion de cœur, nous osons te prier comme notre Père commun à toutes et tous, avec cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ainsi, c'est sans aucune crainte que nous pouvons répondre à l'appel du Seigneur. Venez, dit Jésus-Christ, venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous.
La coupe pour laquelle nous rendons grâce
est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ,
le sang de la nouvelle alliance répandu pour la multitude, pour le pardon.
Heureux celui, celle qui trouve sa joie dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau et qui donne son fruit en sa saison.
Frères et sœurs, regagnons nos places dans la joie du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes, c'est toi qui guéris toutes nos infirmités, c'est toi qui arraches notre vie à la tombe. C'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Je bénirai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction qui vient de la part de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sur toi sa lumière et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, béni sois-tu, ô Dieu, source de vie.